Bienvenue dans The Wave. Le marché de l'artisanat et du design africain.
Voilà. Et pour vous, Jean Servais, comment vous êtes arrivé au design? Comment vous êtes arrivé à votre métier?
Moi, j'ai fait aucune école d'art. Hein. Moi, je sais même pas dessiner. Pour te dire, voilà, moi, mes dessins, c'est ce que j'ai dans la tête, que j'imagine avec mon bout de crayon sur le papier. Voilà. Mais c'est très, très conceptuel. Donc, c'est ce que je vois dedans que Non, moi, je fais une école de bénisterie. C'est juste, c'est même pas une école. C'est une formation dans un centre de formation du métier du bois en Côte d'Ivoire. Après mon secondaire, voilà, moi je ne voulais plus aller à l'école, donc voilà, ben chez nous, si je ne veux pas aller à l'école, tu vas prendre un métier. Voilà, tu n'es pas le choix parce que tu ne vas pas rester là. Et donc, c'était un truc de famille, et donc voilà, il fallait que j'aille apprendre le métier de bénisterie. Je vous avoue que ce n'était pas avec un plaisir et. C'était pas du tout avec un plaisir à cette époque, aucune passion. Mais il y avait juste une chose, ben, il fallait faire ce que tu as à faire, il fallait suivre ta formation, fermer la gueule et faire ce que tu as à faire. Donc, j'ai dû poncer le bois pendant un an. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas mauvais. De quoi détester le bois. Voilà, donc bon, moi, j'ai fait cette école-là. Ce centre de formation à Koumansi, c'était le seul centre d'ailleurs qu'on avait en Côte d'Ivoire. Hein. C'est pour ça que des fois, je remercie le feu président Fouéboigny, lui qui avait compris qu'il fallait monter des centres de formation, qu'il fallait créer des endroits pour former la jeunesse, il avait compris. Donc, ce centre de formation là, qui s'appelait le centre Georges Gandou, c'était le centre même qui a formé tous les ébénistes d'Afrique de l'Ouest. Beaucoup ne le savent pas, mais voilà.
D'accord.
Voilà, beaucoup ne le savent pas, mais Gandou, c'est un Libanais qui arrive en Côte d'Ivoire dans les années 60, un Libanais qui sait travailler le bois, qui sait travailler le meuble, et qui faisait que des meubles de style, des meubles d'époque. Il recopiait, donc il les vendait dans les grandes bourgeoisies africaines, hein, dans les présidences africaines. Tout ce qu'on en faisait comme meubles allait vraiment dans la bourgeoisie africaine. Donc, ils achetaient des meubles de style, les Louis, les Bergères, les machins. Voilà. Et donc, ce Libanais, alors, il avait ce métier. Et donc, il arrive en Côte d'Ivoire dans les années 60. Après les indépendances, le mec, il fait un salon qu'il offre à Oufouet Boigny. Fouette lui dit, mais ça vient d'où? Il dit, mais moi, je le fais à Abidjan, à Koumassi, dans mon petit atelier. Fouette lui dit, bon, je vais aller voir ton atelier. Il arrive, il dit, tu es là. Bon, toi, je vais mettre 5000 mètres carrés à ta disposition et tu vas former tous les jeunes ivoiriens au métier du bois. C'est comme ça que l'histoire a commencé. Donc, voilà, moi, je fais partie de cette génération qui a eu la chance d'être allé dans ce centre de formation chez M. Gandou, ce passionné. Et donc, quelque part, il nous a transmis sa passion, mais même si à cette époque, j'étais... Donc, quand moi, je finis là avec mon CAP, j'étais un peu... Voilà, je me disais que les bénisteries, c'était quelque chose de très occidental. Parce qu'il y a des règles. Il y a des machines, il y a des règles, tu dois couper, c'est droit, c'est machin, c'est ceci. Donc, pour moi, j'ai trouvé que c'était très occidental. Et je me suis dit, ben, je vais aller voir un peu ce qui se passe du côté de l'Afrique, comment on travaille avec le bois, on taille. Donc, moi, je bascule à Bassam pour apprendre l'artisanat, savoir sculpter, comment on prend un bout de bois et comment on travaille avec son imaginaire et tout. Donc, moi, j'arrive là, je suis un vieux sculpteur des rois qui était là à l'époque. Et donc, je tombe sur ce vieux-là dans son stand et puis j'ai dit, écoutez, moi, je viens apprendre le métier. Et donc, surpris, il me dit, ben, OK. Bon, on y va. Et là, je découvre que ce monsieur, il travaille le cocotier. Et donc là, moi, je fais ma première rencontre avec le cocotier. Je suis bouleversé parce que je ne savais pas qu'on travaillait cette plante. Et je voyais comment on travaillait, c'était très dur. Mais vraiment, à l'époque, voilà, moi, après, j'ai créé d'autres choses plus tard, mais d'autres techniques. Mais waouh, c'était physique. Je regardais et j'étais fasciné par l'aspect de la plante, la matière, parce que moi, c'est... Dans le travail que je fais, les matières sont très importantes pour moi. Le matériau est très important pour moi. J'étais fasciné, mais vraiment, bon. Donc, je finis là, la sculpture, tout. La vie fait que je vis en Europe. Je vis en Paris, j'apprends un peu le métier dans les faubourgs Saint-Antoine, par là, donc traîner un peu dans les ateliers. Et c'est ici qu'on m'apprend que le métier que je fais est noble. Voilà, en Afrique, on se moquait de moi. Menuisier, menuisier. ici, qu'est-ce que tu fais? Je suis ébéniste. Ah, vous faites un métier noble. Donc, moi, je regarde les... Je suis mort de rire. Hein, attends, métier noble, ouais. Donc, et je découvre ces ateliers-là à Paris. Et puis, en fait, je bascule complètement à autre chose. Mais complètement, ma vie, je bascule sur autre chose. Sportif, je fais de la boxe, je fais plein de trucs. Et puis, ben, la vie fait que je reviens à ce métier, que j'ai appris. C'est pour ça que je suis très exigeant. Et si, je le dis toujours, c'est bien d'avoir un métier parce que partout où tu seras, quelle que soit l'année, tu pourras toujours te défendre. Et donc, nous revoilà en Côte d'Ivoire, coup d'État en 2000. Et là, bon, là, il est temps que je fasse ce que j'ai envie de faire. Et là, je dis, bon, ben, on va recommencer. Maintenant, je vais commencer à travailler. Et donc, je commence à créer des pièces. Mais bon, on commence. Et à l'époque, mais bon, ma première expo, je l'ai fait en 2000 à Paris. À l'époque, en 2000, design africain.
Ah, ouais.
Je suis walou. On n'entend même pas parler, à part les grands frères, Cheikh Diallo, qui étaient un peu les précurseurs, les Vincent Niamia, Issa Diabaté, qui avait fait la Biennale de Dakar avant. Donc, il y avait, c'était les, voilà, c'était les précurseurs. Issa Dion à l'époque aussi, machin. Donc, tu crées des meubles, je fais ma première expo, j'ai une amie, ma très bonne amie me dit, écoute, ouais, il faut que tu fasses une expo. Je dis, mais comment on fait une expo? C'est quoi une expo? Ben, en fait, voilà, tout ça. Et elle me dit, parce qu'elle faisait l'école d'art, elle me dit, écoute, je vais te monter ton expo, mais par contre, il faut que tu crées des pièces. Donc, je repars en Côte d'Ivoire, je prends un peu de bois, mais vraiment à la route, comme on dit. On avait des squats à Montreuil, à Paris, où on travaillait dans des ateliers des gars. Donc, on a commencé comme ça. Un petit meuble, un petit truc. Bon, ça ne nous faisait pas bouffer, mais on avait commencé notre truc. Et on va voir où ça va aller. Et donc, c'est comme ça, tu fais un aiguille, première expo. Je découvre ce qu'on appelle une expo. Je découvre ce qu'on appelle un cartel. Je découvre ce monde-là. Je découvre ce qu'on appelle un cartel. Et en fait, tout a basculé en 2002 à la Biennale de Saint-Étienne. Donc, je suis sélectionné à la Biennale de Saint-Étienne pour la Biennale 2002. À l'époque, je dis en même temps merci aussi, parce qu'à l'époque, c'était l'AFA, l'Association française d'action artistique, qui dépendait du ministère des Affaires étrangères français et du ministère de la Culture, qui a pu nous faire venir à ces biennales, à ces représentations. Payer nos billets d'avion d'Afrique, payer le voyage des œuvres, payer tout jusqu'à nous amener à Saint-Étienne. Je dis merci aussi parce qu'ils ont permis de nous faire connaître un peu. Parce que ce programme a existé pendant quand même beaucoup d'années. Et ça a permis à toute une jeunesse africaine, nous qui arrivons, pour certains, ceux de la diaspora, ceux des Antilles, de pouvoir venir proposer des choses en Europe. Parce que payer le transport des pièces, quand tu commences un designer, tu n'es même pas connu, déjà tu galères pour créer, et puis il faut venir exposer ici, mais tu fais comment? Et donc cette chance-là a fait que j'arrive à la Biennale 2002 à Saint-Étienne, le plus gros événement de design au monde, et là je prends une claque. Je prends la claque de ma vie, c'est-à-dire que je suis dans un temple où il y a 3000 exposants, institutions, grands designers reconnus, petits designers, tout le monde est là. Ok, on nous pose dans nos pays et machin, et là tu découvres, et là tu te, et là je découvre pendant, à partir de là j'ai compris, c'est ce jour-là que j'ai compris ce que c'était que le design, c'est ce jour-là. Avant j'avais pas compris, c'est ce jour-là que j'ai compris, et là je me suis dit, oula mon gars, t'as beaucoup de boulot. Mais j'étais même flippé, est-ce que c'est vraiment, mais là t'es flippé complètement parce que tu regardes ce que tu produis toi. Non seulement un jeune designer qui arrive, qui n'a pas la confiance, qui produit, tu vois des gens qui sont déjà, j'arrive, je suis à côté de Cheikh Diallo, le grand frère, je dis, waouh, je suis fasciné par son travail, c'est vraiment quelqu'un aussi qui m'a beaucoup inspiré dans son travail de finition. Ça, à l'époque, il présentait sa collection de couverts, de petites cuillères et fourchettes qu'il avait créées. Vraiment, j'étais fasciné. Philippe Stark en face. Eh bien, figurez-vous que le lendemain de l'ouverture de la Biennale, c'est mes pièces à moi et moi qui suis sur le journal de Saint-Étienne.
Waouh!
Et là, tu dis, non, mais là, il se fout de moi, là encore, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Et donc, Cheikh Diallo, il m'appelle, il me dit, écoute, Réveille-toi parce que tu es à la une de Saint-Étienne. Je me dis, c'est quoi ce délire? Moi, j'étais mais tout flippé, mais même pas, je regardais mes pièces, je regardais à côté, je me dis, oh là là, là 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 là. Et là, tu dis, et je dis, mais c'est pas possible. Et le lendemain, mon stand, il est rempli jusqu'à la fin de la biennale. Et je comprends pourquoi il est rempli. Il est rempli parce que les gens sont fascinés par le cocotier, qu'ils n'ont jamais vu, qu'on le travaille comme ça. Ils sont fascinés par les formes. Et là, je comprends. Et à partir de là, tu dis, bon, OK, mais écoute, tu es dans un gros bateau, travaille.
Ouais.
Et donc, moi, ce qu'on nous avait appris à l'école d'ébénisterie, au centre de formation, Georges Grandou nous a toujours dit, si un jour vous devez faire ce métier, ce n'est pas la vente qui est le plus important. Ce n'est pas le client qui est le plus important. C'est de structurer la base où on produit. C'est d'avoir ses artisans. C'est de structurer son atelier. C'est de structurer sa production. Une fois que tu as tout ça, les clients, ils viendront sur le travail bien fait. Ça, ça m'est toujours resté là. Et donc là, j'avais compris que là, maintenant, il va falloir que mon processus de travail que j'aimerais écrire dans le design que je veux, parce que quand je vois Saint-Étienne, me bascule complètement. Je vois le matériau que j'utilise. Je vois ce que j'ai vu à Saint-Étienne qui m'a complètement, ça a été un tsunami. Et là, je me dis, il va falloir que tu écrives ton écriture. Il va falloir, et c'est ça. Si tu n'écris pas d'écriture, ce n'est pas possible. Tu n'as pas ta place dans ce truc. Et il va falloir que tu sois pointu. Il va falloir que tu comprennes c'est quoi le design. Et donc, c'est tout ça à partir de là et en cheminement d'aller s'instruire, d'aller regarder les magazines de design, d'aller savoir qui fait quoi, quelle époque. Mais c'est hyper important. Mais c'est important, ça. Moi, ça m'a nourri de savoir. Parce que c'est bien de faire un meuble, mais il faut savoir quel volume on va lui donner, il faut savoir il va servir à quoi. Mais en fait, il y a tout ça. Et donc, pendant qu'on travaille, qu'on galère, qu'on travaille, parce que ce n'est pas facile, hein, ce n'est pas un métier facile, vraiment. C'est surtout sur le continent où on n'a rien qui est posé pour nous aider à avancer, pour nous aider, pour nous accompagner. C'est vraiment, et comme je l'ai dit, nous, on a commencé comme ça. Hein. Ça n'a pas été facile. Ça a été un long combat. Parce que quand tu fais du design que tu vends, ben, il va falloir avoir un nom, un petit nom. Parce que sinon, ben, il y a des millions de designers dans le monde. Il va falloir avoir un petit nom. Le petit nom, c'est il faut travailler. On a eu beaucoup d'expositions en Europe. Beaucoup. Parce qu'à l'époque, bon, dans ces années, début 2000, les Africains n'étaient pas, je ne dis pas que hein, la majorité, le design, tout ça. Pff. Donc, comme je disais à des amis, voilà, on a vu aujourd'hui Cretiano commence à monter le design en Afrique jusqu'à aujourd'hui en 2021, tout le travail qui s'est abattu. Et c'est pour ça que je reste confiant. Mais c'est vraiment pour ça que je reste confiant. C'est un peu dommage parce que nos pays ne nous impulsent pas, ne donnent pas comment on appelle, le turbo. Mais sinon, moi, je vois. Comment, et tu le vois par les designers qui travaillent sérieusement. Tu le vois par les designers qui ont, par les gens. Parce que, vous savez, moi, j'ai dit toujours, si c'est pour créer, ça sert à rien. Pour nous autres, si c'est pour créer, ça sert à rien. Parce que nous, on propose des choses, les designers. On propose des choses au service de nos compatriotes, au service de nos concitoyens qui vont vivre avec, qui vont chacun avec. Donc, dans ce qu'on propose, il y a de tout. Ça va être utile, ça va être très beau. Parce que le design, c'est une identité. Le design, c'est notre identité. Mais oui, ça, les gens l'oublient. Le design, c'est notre identité. C'est l'affirmation de ce que nous sommes. Et donc, à partir de ce moment-là, quand on crée, on doit avoir notre réflexion de savoir qu'on est en Afrique, on est un continent qui importe tellement, on est un continent qui est machin, que nous, designers d'aujourd'hui, ben, si on doit faire des choses, il faut qu'on arrive à l'assumer. Il faut qu'on arrive à proposer des choses pour nous sur le continent et à pouvoir le proposer aussi à l'extérieur. Donc voilà, c'est un peu comme ça que doucement, c'est forgé, que je me suis forgé, des hauts et des bas. Des fois, on avait envie d'arrêter. Hein. Combien de fois j'ai arrêté. Je ne veux plus en entendre parler. On a tout fermé, c'est bon, ça ne marche pas. À un moment, il faut. Voilà, on a peut-être aujourd'hui, on arrive à vendre. Mais
les comptes restent difficiles.
Ça reste difficile, surtout quand on travaille sur le continent. Mais c'est tout ça qui nous forme. C'est tout ça qui nous donne de l'ambition. C'est aussi le, Ce qui est très intéressant dans tout ça, c'est de voir qu'on a. Moi, aujourd'hui, quand je vois l'équipe que j'ai, depuis combien d'années, un an, les plus anciens sont avec moi, ils sont 15 ans. 15 ans, les plus anciens. Les récents, il y a 5 ans. C'est une famille. Nous, on est obligé de créer, avec nos artisans, avec nos collaborateurs, on est obligé de créer une famille. Parce que ce qui est important, c'est de leur transmettre ce que nous, on a dans la tête. Il faut qu'on leur mette ça dans leur tête. Eux aussi, on prend ce qu'ils ont dans leur tête, on la met dans leur tête. Et nous, parce que j'ai dit, c'est nous qui allons leur apporter le design. Eux, quand on me posait la question, c'est quoi un designer, c'est quoi un artisan? L'artisan, il exécute.
Oui.
Il exécute. Le designer, il conçoit, il pense. Et donc, on a besoin d'artisans, on a besoin. Donc, si je pense que je dois donner à quelqu'un qui exécute, c'est qu'il faut qu'il soit dans ma tête, il faut que je sois dans sa tête. À partir de ce moment-là, je pense qu'on arrive à commencer à écrire quelque chose.
Oui.
Et c'est ça qui va nous permettre de combler ce qu'on n'a pas comme maison d'édition dans nos pays et autres, jusqu'à ce que peut-être d'autres arrivent un jour. Mais c'est ça qui va faire qu'on soit en osmose avec nos ateliers, qu'on soit en osmose avec les gens avec qui on travaille pour toujours continuer à proposer des choses.
Et que voilà, ensemble… On va créer des plateformes, on va créer des projets, voilà. On va co-collaborer pour construire des projets. Et vous savez, moi-même personnellement, à quel point je suis impliquée et imprégnée de ces missions-là. Donc, je pense qu'on est sur la bonne lancée.
Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode de The Wave. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre page Instagram. We are the wave, reaching out to the skies, Africa rising. We are the way we tell the story.